Voiles au crépuscule. À peine la famille arrivait-elle à Kerbihan le dimanche 3 août, en fin d'après-midi, que Luc proposait à Romain d'aller sur la plage. Ils se baignèrent, puis ils firent une grande promenade jusqu'à la pointe Saint-Colomban. Luc n'eut de cesse, les jours suivants, d'entraîner Romain vers la voile, la planche, la natation, la marche, ou encore la bicyclette. Romain ne pipait mot. Il découvrait un nouveau rythme d'une impressionnante intensité. Il ne reconnaissait plus son frère. Il avait jusqu'alors eu l'habitude, à Kerbihan, de passer une bonne partie de son temps à l'attendre. Luc n'était plus le même. Il avait accueilli des amis à la campagne où il avait pris en charge l'organisation des groupes. Romain le trouvait incroyablement entreprenant depuis qu'il connaissait Delphine. Ce n'est pas normal, pas naturel, pensait-il, fatigué par cette soudaine énergie. Il échangeait des regards silencieux avec ses parents, au moins aussi perplexe que lui. Tous trois se demandaient si Luc conserverait longtemps son inépuisable entrain. L'équilibre des premiers jours sur la côte bretonne leur paraissait précaire. Ils n'avaient plus leurs repères habituels. Ils se gardaient cependant d'en parler à Luc, ne souhaitant pour rien au monde risquer de le blesser. Une nouvelle mode avait par ailleurs fait son apparition dans la famille. Luc, décidément fort investi dans son nouveau rôle d'animateur en collectivité, proposait désormais aux parents de participer à l'activité du jour, bateau, bicyclette ou balade. L'intention était charmante. Thibaut et Maud ne s'y opposaient évidemment pas. Mais il s'interrogeait. Qu'était donc devenue l'indéfectible complicité entre les deux frères, si essentielle à Romain? Les jours passèrent. La régulière roue du temps décrivit son habituelle rotation et avant même la fin de la première semaine, Luc avait renoué avec un comportement plus familier. S'écoulèrent dès lors de souriantes et prévisibles journées. Une fois le duo reconstitué, Luc et Romain firent quasiment chaque jour de la planche à voile. Thibaut et Maud ensemble dans la journée se séparaient une heure ou deux, ou parfois même davantage, en fin d'après-midi. Maud travaillait ses textes, elle s'installait sur la terrasse de l'hôtel de la plage. Dans la cafétéria du yacht club ou encore dans la navette qui faisait l'aller-retour entre la plage et le centre de Kerbihan. L'animation dans l'autobus ainsi que les kilomètres parcourus l'aidaient à se concentrer. Après le dîner, ils jouaient tous quatre au whist, un jeu de cartes inventé par les amis étudiants de Luc et ainsi baptisés par eux, ou bien à tabou, un jeu qui interdisait de prononcer certains mots et qui provoquait entre les deux équipes concurrentes de grands moments d'hilarité. Maud était habile avec les mots, fière d'emporter fréquemment la victoire avec son partenaire du moment. Il jouait aussi parfois au Scrabble. Thibaut avait apporté les DVD de la série « The House of Cards » pour d'éventuelles soirées vidéo à quatre, mais la fiction ne fut pas du goût de Luc, qui avait ses exigences en matière de séries américaines. Le scénario était d'après lui cousu de fil blanc. « On ne peut pas y croire », précisait-il. Thibaut et Maud se retrouvèrent donc seuls devant de trépidantes péripéties politiques sises à la Maison-Blanche. Ils regardaient les épisodes, les uns après les autres, comme ils auraient commodément avalé d'agréables bonbons sucrés. Loin d'être infondées, les critiques de Luc ne leur importaient guère. Le divertissement, de nature presque industrielle, était conçu pour retenir l'attention du spectateur. Thibaut et Maud disposaient ainsi de leur activité du soir, qu'ils purent même poursuivre à Paris, étant donné le nombre d'épisodes. L'effet addictif des séries est bien connu, sous réserve bien sûr que l'alchimie opère. Lorsqu'ils ne prévoyaient pas de passer leur journée avec les deux jeunes, Thibaut et Maud vivaient donc de confortables séances bonbons sucrés. Ils ne boudaient pas leur plaisir, qui n'était certes pas exigeant, aussi peu exigeant qu'une descente en luge sur une pente enneigée. Maud vit avec plaisir Romain se plonger dans la lecture de Zola, de romans policiers et de science-fiction. Elle se réjouit également des deux soirées qu'ils passèrent ensemble au restaurant. Ils dînèrent le soir de leur arrivée sur la terrasse de l'hôtel de la plage, avec vue sur les vagues qui brillaient encore à cette heure de la journée. « Tu exagères, maman, » dit Luc à sa mère en fin de repas. « Je te trouve dure avec Manou. » Maud écouta son fils, extrêmement attentive à ses reproches. Sa belle-mère n'allait pas bien, elle passait sa vie au fond de son lit. Elle était si dépressive qu'elle finissait par se montrer hostile envers Thibaut. Leur appartement était situé immédiatement au-dessous de celui de Manou, et également envers sa fille, qui habitait de l'autre côté du jardinet, dans la même copropriété. La débâcle avait largement triomphé au troisième étage du 75 boulevard de Tessier, dans le 12e arrondissement, entre la Porte Dorée et la place Doménil. Marcel, le père de Thibaut, était désormais dépendant pour sa toilette et ses repas. Il ne marchait plus. Il n'avait plus de mémoire. Il ne pouvait comprendre la moindre phrase. On la commençait et avant même que l'on parvienne à son terme, il en avait oublié le début. Alzheimer avait accompli son œuvre. Marcel n'exigeait même plus que ce soit sa femme et personne d'autre qui lui prodigue les soins dont il avait besoin. Il était devenu indifférent, absent. Plus précisément, les professionnels pouvaient prendre le relais. Depuis le matin jusqu'au soir, Manou n'avait plus d'obligation. Et pourtant, la terrible maladie s'y avançait désormais. Au lieu de lui apporter un début de libération, l'avait vu au contraire s'abîmer dans une profonde dépression. Luc trouvait sa mère sévère lorsqu'elle considérait que Manou était responsable de sa situation. « Elle l'a bien cherché, » disait-elle. Maud l'avait pourtant amplement prévenu. Manou n'avait rien voulu entendre. « Voyons, Maud, » avait-elle régulièrement et sèchement répondu, « tu ne te rends vraiment pas compte. » Manou avait créé sa propre souffrance, concluait Maud. Elle s'était laissée enfermer. Maud ignorait combien de fois elle lui avait rappelé qu'elle devait continuer à cultiver des intérêts personnels, des passions même, le catéchisme par exemple, qu'elle avait longtemps enseigné avant de se l'interdire d'elle-même, considérait Maud. « C'est plus simple ou plus facile », avait décrété Manou. « Vous devez sortir », lui avait abondamment conseillé Maud. « Je ne peux pas », l'interrompait Manou, « à cause de Marcel, qui l'excédait par ailleurs en de nombreuses occasions. » Manou s'était figé dans une détestable immobilité et, cette dernière année, alors que Marcel n'avait plus besoin d'elle, alors qu'il ne la distinguait plus dans son environnement désormais inintelligible. Elle en était venue, justement cette année, à passer dans son lit le plus clair de ses journées. Son désir de vie semblait avoir disparu. Elle était physiquement harcelée. Elle souffrait le martyre, disait-elle. Elle endurait mille maux qui touchaient à tour de rôle, et en dépit de toute logique apparente, ses poumons, ses reins, ses articulations, ses épaules, ses muscles, ses intestins, sa nuque, ses coudes, ses mains, son dos, son estomac, sans compter tous les autres organes imaginables qui n'étaient bien sûr pas épargnés, sans compter de nombreuses infections révélées par d'aussi nombreuses analyses de sang. Les symptômes étaient traités au fur et à mesure de leur interminable ronde. Aucune cause précise n'était diagnostiquée malgré d'incessants examens pratiqués dans d'innombrables hôpitaux et cabinets parmi les plus réputés de Paris. Manou accusait sa famille de ne pas comprendre la réalité et l'ampleur de ses douleurs. Ses troubles ressemblait fort à de puissantes manifestations psychosomatiques, voire même parfois à une hypocondrie exacerbée destinée à masquer une intense dépression. Que pouvait-on faire ? Maud apercevait, depuis le restaurant devant la mer, les dernières voiles qui naviguaient encore dans la lumière du crépuscule. Ils dînaient tous les quatre ensemble, l'événement n'était pas si fréquent, il était en conséquence une fête, puisque Maud se contente à Paris de distribuer des boîtes plastiques à chacun son repas. Elle n'est pas capable tout à la fois de préparer les aliments, de mettre la table, de servir, de desservir, si possible en cours de repas, afin d'éviter la victoire sans conteste du très puissant bazar, et de plus, d'animer la conversation. Cette dernière activité est la plus importante à ses yeux, et Maud est la seule, sauf exceptionnelles circonstances, à en assumer la charge. Elle a donc depuis longtemps abandonné toute ambition en ce domaine. Elle n'en souffre pas, elle se contente d'assurer la fonction nutritive des repas, tout en ne négligeant pas la fonction d'échange, qu'elle reporte à d'autres moments plus opportuns à son goût. Manou est raide, vraiment rigide, avait rappelé Maud alors que le sable apparaissait à marée basse entre les digues. Elle devrait tenter ne serait-ce qu'un peu de céder elle-même. Moi j'arrête, j'en ai assez de lui parler raison, nuance et ouverture d'esprit. Je laisse tomber. Elle souffre, c'est sûr, mais c'est logique au fond. Inévitable en réalité. Tu as tort, maman, lui avait répondu Luc. Et la douceur, la compassion, la compréhension envers Manou, notre grand-mère, la mère de papa, tu en fais quoi ? Maud a écouté son fils. Et elle lui a fait confiance. Elle a, depuis cette soirée, changé d'attitude. Elle a repris courage et elle tente de nouveau avec les mots. Existe-t-il d'autres moyens de sortir sa belle-mère de l'ornière? Rien n'assure que ses efforts soient un jour couronnés de succès. La vie étant loin d'être une suite ininterrompue de happy ends à l'américaine. Mais quand bien même elle échouerait, quand bien même Manou demeurerait cloîtrée dans sa prostration, devrait-elle pour autant abandonner toute tentative, compter son effort ou mesurer sa peine en ce domaine n'a pas grand sens. son fils n'avait pas tort. Maud inaugura donc, dès le lendemain, la méthode des conversations téléphoniques quotidiennes. Elle a rappelé à Manou qu'elle-même avait souffert d'une profonde dépression quelques années avant son mariage. Elle lui a parlé longtemps de cette terrible tristesse qui l'accable depuis qu'inexorablement décline l'état de santé de Marcel. Maud a même réussi à l'entraîner vers la lecture téléphonique, c'est-à-dire à lui lire des extraits de livres par téléphone. La convaincre ne fut pas une mince affaire. Manou se disait épuisée, totalement incapable de se concentrer et donc d'écouter le moindre texte. Elle n'en éprouvait bien plus probablement, pensait Maud, pas l'ombre d'un début d'envie. Maud finit cependant par emporter la victoire. Elle-même en avait besoin. Lire des textes lui permettait de l'appeler chaque jour sans ennui ni lassitude. Ainsi, le lien ne s'épuisait pas. Maud avait retenu cette méthode qu'elle connaît et qu'elle pratique déjà avec sa propre mère. Claire est veuve depuis des années et Maud s'assure chaque matin par un bonjour téléphonique quotidien, par le bavardage habituel qui l'accompagne, par la découverte ensemble de livres qu'elle lit oralement et qui leur plaisent à toutes deux, que son moral ne faiblit pas. Ces derniers temps, Maud avait choisi Autre rivage de Nabokov, une autobiographie comme elle n'en a jamais lu, d'une intelligence hors de portée, d'une beauté et d'une poésie subtile, et d'une profondeur vertigineuse. Retrouvez vos désirs, rappelait Maud à Manou lors de leur conversation du matin. Ce que vous aimez faire, le catéchisme ou le bridge ou toute autre activité avec d'autres. Vous aimez le comptable et vous irez mieux. Intérieurement d'abord. Et puis ensuite, dans les faits, dans les actes. Peu à peu, un jour ou l'autre. Maud passait ensuite à la phase lecture. Parler est certes bénéfique, mais lire un livre dans une forme définitive. Mais lire un livre dans une forme définie, choisie par l'auteur, permet d'entamer un voyage avec lui, de s'éloigner un tant soit peu des considérations souvent les mêmes entre deux interlocuteurs, en l'occurrence entre belle-mère et belle-fille. La belle-mère, en ce cas précis, développait de savantes préoccupations médicales chaque jour renouvelées. La belle-fille se contentait d'exhortations les plus banales qui soient du style « N'oubliez pas que la bonne santé est avant tout morale ». Elle aurait cité le très sage dicton populaire « Aidez-vous, le ciel vous aidera », qu'elle n'eût pas été moins originale. Maud a la conviction qu'un être humain ne peut gagner le combat contre la tristesse qu'en levant le regard vers le ciel, en s'émancipant des limites imposées à son être au monde. Et le livre est à ses yeux l'un des moyens privilégiés, discret, souple, toujours à disposition, une merveille. Elle n'en doute pas. Mais le rejet fut dans un premier temps radical. Manou refusait, elle se dérobait, mais non, répondait-elle, je suis épuisée, j'ai des vertiges, je n'ai plus ma tête à moi, je ne lis plus, même regarder la télévision, je n'y arrive pas. La réponse était sans appel, répétée, incontournable. Attendez, Manou, lui proposa Maud un beau matin de septembre. Elle avait longuement réfléchi à la question et croyait avoir trouvé une solution. « Mais c'est à moi que vous rendrez service. J'ai besoin de votre écoute pour mes livres. » L'argument était fantaisiste. Maud avait l'intention de lui lire des extraits de l'un de ses premiers volumes. Elle utilise des services d'auto-édition sur papier et numérique proposés par Internet. Mais elle ne modifierait pas ce livre, terminé depuis longtemps. Sollicitée pour aider Maud, Manou s'inclina. Elle accepta dès lors d'entreprendre ce voyage. Dans un autre univers, celui des textes de Maud. Celle-ci, en lisant ses propres écrits, n'était en rien poussée par un égocentrisme forcené. Elle tentait seulement d'entraîner Manou vers un objet extérieur, formalisé, clos, délimité. Manou se libérerait peut-être, au moins en partie et pour un temps, de ses douloureux enfermements. Tel fut l'effet du premier dîner à quatre sur la terrasse de l'hôtel de la plage. Les conséquences seraient-elles de courte ou de longue durée? L'avenir se prononcerait à plus ou moins long terme. Toujours est-il qu'à la fin du mois de septembre, les appels entre belle-fille et belle-mère se maintenaient au même rythme, quasiment quotidien. Ils sortirent un deuxième soir à Kerbillon dans une crêperie pour l'anniversaire de Maud. Ils dînèrent à deux pas de l'appartement et du bassin de Port-en-Gif. Les silhouettes des barques de pêche, longues et basses, s'y reflétaient à l'heure de la pleine mer. Sur la photo prise ce soir-là, Maud a l'air détendue. D'habitude, elle se fige devant l'objectif. Mais, cette fois-ci, furent peut-être saisies au vol la conscience d'être là, dans l'instant, à sa place, la perception fugace d'un très bref éclat de très léger bonheur. Maud avait l'habitude depuis des années d'appeler fréquemment sa mère. À partir du mois d'août, sa belle-mère fut également l'objet de son attention du matin. Elle eut d'autres rendez-vous téléphoniques réguliers cette dernière année, entre les deux étés 2013 et 2014, passés à Kerbillon, notamment avec l'une de ses amies qui habite Montargis et qu'elle connaît depuis plus de 30 ans. Rosalie avait enfin pu rentrer chez elle en juillet 2012, guérie selon les médecins après une année de lourds traitements contre le cancer. Maud s'était rapprochée d'elle pendant cette longue période de radio, chimio et immunothérapie et il y a un an, en septembre 2013, de retour à Paris, Maud apprenait qu'une autre tumeur était apparue. La rémission n'avait duré qu'une quinzaine de mois. La triste nouvelle renforça de la même façon, cette année donc, les liens entre les deux amies. Septembre 2013, la rechute était annoncée, Maud reprenait la parole, comme elle l'avait fait lors de la première thérapie. Connaît-on d'autres moyens? Question parfaitement récurrente. En pareil cas. Soigne-toi, lui a dit Maud très régulièrement. Et garde la joie. Et surtout, avant tout, le désir de la vie. On est bien obligé, Rosalie, de donner du sens à ce scandale, cette absurdité. des cellules malignes qui de nouveau se multiplient. Alors allons-y, Rosalie. Lançons-nous, entre nous, discrètement pour rire, sans crainte du ridicule. Émettons des hypothèses. Supposons par exemple que la maladie te punit. Tu étais guérie et tu t'es laissé rattraper une fois de plus par la tristesse, la déprime, les interrogations. Vanité des vanités, as-tu de nouveau ruminé comme avant pendant des années, bien avant que tu ne tombes malade. Et mes enfants, qu'y a-t-il vraiment entre eux et moi? Et mon mari? À quoi ressemble vraiment notre vie à deux? Des questions stériles, Rosalie. Blessantes, inutiles. Cultive le désir et la joie et méfie-toi. La maladie n'aura surtout pas intérêt à te rattraper une fois de plus, une troisième fois. Si par hasard elle y parvenait, plus tard, alors crois-moi, elle te lâcherait plus. Tu n'as pas le choix. On n'a pas le choix. Quand tu seras rétabli, il te faudra sourire. Tu seras forte, tu chasseras au loin tes vieux démons et tu verras alors la sournoise et agressive maladie restera à distance. C'est ma faute aussi, ajoutait Maud. Tu t'es trouvée guérie et nos appels alors se sont espacés. Et pourtant, c'était convenu. J'étais ta coach, en joie de vivre. Mais je t'appelais moins et puis voilà, il est revenu. Le détestable, le i de crabe, soigne-toi. Un jour, ton insupportable fatigue disparaîtra. Cet épuisement qui t'écrase quand tu subis tes radios, tes chimios, tes immunothérapies. L'énergie reviendra. Et alors ta coach morale sera là présente, d'autant plus présente que tu iras bien. Rosalie est tout à fait d'accord. Le discours de Maud, de retour dans la capitale, est aujourd'hui inchangé. Même si elle sourit, même si toutes deux se moquent gentiment de ces théories fantaisistes et pourtant presque banales désormais, selon lesquelles toute maladie, y compris le terrible cancer, sanctionnerait un profond mal de vivre, comme s'il était, dans tous les cas, plus confortable de souffrir de troubles physiques plutôt que de maux existentiels, comme si toute maladie se trouvait être de nature psychosomatique. Maud n'a aucunement l'intention de convaincre quiconque, en dehors de l'espace ludique d'une certaine façon qu'elle forme avec Rosalie. Elle a bien conscience de naviguer sur les eaux de l'imagination, de l'élucubration même, puisque son affirmation « les maladies sont des conséquences de souffrances morales » ne peut en rien être prouvée. Mais n'a-t-elle pas, dans le même ordre d'idées, d'illustres prédécesseurs? Le grand Blaise Pascal lui-même n'a-t-il pas parié sur l'existence de Dieu, qui ne saurait être prouvée? Il a parié dans le sens qui lui convenait pour lui et pour les hommes, pour son confort et leur bonheur. Il avait tout à gagner et peu à perdre. Maud a le sentiment de suivre, à sa façon et en toute modestie, une démarche relativement proche. L'hypothèse, la tristesse est à l'origine de la rechute de son ami, aide Rosalie, qui peut ainsi espérer que plus tard, une nouvelle fois guérie, elle saura éviter une autre récidive en luttant victorieusement contre sa mélancolie. Si Maud parvient à réconforter Rosalie, peu importe au fond la plus ou moins grande exactitude de son discours. Les scientifiques raisonnent-ils autrement lorsqu'ils considèrent que toute théorie confirmée ou seulement non affirmée par la pratique peut être considérée comme vraie? Les deux amies blaguent, elles s'amusent, tout en essayant comme elles le peuvent de se rassurer. Elles se tiennent par la main, fermement déterminées à ne pas desserrer les doigts. Maud a par ailleurs demandé à Rosalie, de même qu'à sa mère et à sa belle-mère, si elle pouvait lui lire des textes, pour limiter avec elle aussi le risque de voir au fil du temps leurs échanges s'appauvrir. Lire, c'est agir ensemble. Maud prend ainsi en début de conversation la température du moral de son amie. Vient ensuite le moment du réconfort, plus ou moins développé selon le cas, et enfin celui de la lecture. Lors de la phase encouragement, Maud prodigue des conseils, identiques à ceux qu'elle donne à Manou et qu'elle applique dans sa propre existence. Elle incite Rosalie à partir en quête de ses passions personnelles, de les découvrir et ensuite, sans hésiter, de les explorer. Rosalie est fort heureusement très loin d'en manquer. Elle a cessé d'enseigner la comptabilité et la gestion lors de sa première maladie. Elle a maintenant 55 ans et elle ne travaillera plus. Mais elle est passionnée par le violon et le chant, dont elle améliore sa pratique par des cours hebdomadaires. Elle développe un goût et un don exceptionnels pour l'amitié. Elle aime le cinéma. Elle prévoit de visiter les malades dans les hôpitaux. Elle essaiera de leur parler espoir et sérénité. Ensuite, s'il n'est pas trop tard, les deux amis débutent leur lecture commune. Maud est convaincue et approuvée sur ce point également par Rosalie que le faire ensemble est le secret de l'amitié. Maud a commencé avec la lecture de Rimbaud. Elle est ensuite passée aux écrits de Sochka, l'un de ses amis qui, comme elle, auto-édite ses romans. Il est un magnifique écrivain, exigeant, cosmopolite, souriant et profond. Maud perçoit mieux encore la richesse et la densité de ses textes lorsqu'elle les dit à haute voix. À chaque fois qu'elle le lit, elle prend ensuite le temps, dès qu'elle en a terminé avec Rosalie, de redécrocher son téléphone. Elle appelle l'auteur et dépose ses commentaires de lecture sur son répondeur. Ceci pourrait un jour ou l'autre s'avérer précieux si le courage de Sochka pour écrire venait à s'épuiser. Une éventualité possible lorsque l'on demeure un écrivain totalement méconnu. Maud nourrit en elle le profond désir de soutenir ceux qui écrivent. Ces échanges téléphoniques avec sa mère, avec sa belle-mère, avec Rosalie de nouveau depuis quelques mois, avec Camille, sa récente amie avec qui elle prend un muscat des cassis après l'atelier du jeudi soir, constituent le panorama téléphonique matinal de Maud au seuil de cette nouvelle année parisienne. Certains, ou bien certaines, furent dans le passé de grands épistoliers, ou bien cela s'entend d'actives épistolières. Maud a le sentiment d'en être une, au goût du XXIe siècle, et ses conversations quotidiennes faites d'amitié et de lecture tout à la fois augurent d'un bon début de journée. Innombrables sont les vies plus dures, plus ingrates et plus enfermées. Maud hume la fleur de la vie. Elle profite du sel de la terre. Elle a conscience, sans risque de l'oublier, de cheminer parmi les privilégiés du monde. Le dernier jour des vacances, Thibaut avait rejoint Maud dans l'appartement en fin d'après-midi. Elle s'était chargée, comme à son habitude, du ménage, des bagages et du chargement de la voiture. Elle apprit alors que ces deux garçons n'avaient pas profité de leur dernière journée. Une insidieuse vague de mécontentement commença peu à peu à l'envahir. Elle se mit à ressasser. Je fais des efforts, maugréait-elle, je range tout pour qu'ils prennent du bon temps, pour qu'ils s'aèrent jusqu'au bout, mais non, ils font rien, pas de voile. Évidemment, ce serait trop leur demander. Et ils n'ont pas nagé, même pas marché. Quel dynamisme, franchement. C'est vraiment réjouissant. Maud était tout à fait contrariée. Elle ne pouvait s'en empêcher, elle récriminait intérieurement, tout en se jugeant dans le même temps éminemment stupide. Ces garçons n'avaient plus 12 ans, ils n'agissaient plus comme elle le désirait. Elle devait l'admettre. Elle ferma l'appartement, elle prit le volant, Thibaut à ses côtés et les deux jeunes sur la banquette arrière. Elle savait qu'elle allait demeurer, pendant les 5 heures de route, la victime de sa propre mauvaise humeur, si toutefois elle ne se décidait pas à l'exprimer. Elle choisit donc de s'y hasarder, bien qu'elle doutât en toute honnêteté de son bon droit. « Non mais tu dis n'importe quoi !» se récrièrent les trois hommes dans un bel et unanime ensemble, après qu'elle eut expliqué, plutôt gênée, l'origine de son malaise. « Tu es sectaire, exigeante, autoritaire, injuste, dure, c'est incroyable !» Luc, grand boudeur devant l'Éternel, se considéra gravement offensé et se sentit tout à fait habilité à s'engager tout de go sur la voie de la très déplaisante et pénible morosité. « Tu déraisonnes vraiment, ma pauvre Maude, conclut Thibault. La preuve, regarde, Romain. Il te soutient toujours d'habitude dans tous les cas, mais aujourd'hui, donne tort, il est choqué même, tu vas pas bien. » Maud était d'accord, elle s'excusa humblement, elle expliqua le dilemme auquel elle avait été récemment confrontée, ou bien elle subissait, malheureuse et solitaire pendant tout le voyage, les affres de la rumination acrimonieuse si elle se taisait, ou bien elle devenait la cible de toutes les critiques si elle parlait. Elle était désolée, mais entre deux mots, elle avait préféré le second, et c'était un fait, elle se sentait beaucoup mieux désormais, parfaitement bien même. Luc, pour sa part et par bonheur, ne tarda pas à abandonner ses velléités de vindicte maussade. L'ambiance familiale s'établit dès lors au beau fixe, et ce, jusqu'aux portes de la capitale. Et également, une fois celle-ci franchie, cela va sans dire. Fin du roman. Lecture de la table détaillée. Table des matières, avec titre des chapitres et résumé des chapitres. Résumé à la Jules Verne. La table, détaillée. Concept de haut vol. Préparation des vacances, contraste entre Maud et ses trois hommes. Les vacances se ressemblent. Ce que Maud théorise à l'aide de Jean Kelevitch. Transmission familiale par la voile. Les vacances ne dureront que 2 semaines car Luc effectue un stage en alternance. Il prévoit sans doute d'autres vacances. Pas d'épuisement. Luc fut l'un des derniers étudiants à trouver un contrat d'alternance en raison des difficultés rencontrées l'année précédente pour rédiger et présenter son mémoire. Maud a appelé un ami. L'intervention des relations, ajoutée à la chance, ajoutée au CV de qualité de Luc, ainsi qu'à la réussite de son entretien d'embauche, toutes ces raisons sont à l'origine de son contrat en alternance. Sa mère pense qu'il ne s'est pas beaucoup usé pendant ses études. L'une des plus somptueuses tours. Passé professionnel de Maud. Habillement de Luc pendant son année d'alternance. La cantine. Les cafés dans la journée. Les jeux vidéo du soir. Maud apprécie que ses fils vivent encore dans l'appartement. Compétences informatiques de Luc. Il est sauvé par Internet, dit-il. Sa participation au projet mis en place par le service. Les consultants, les techniciens. Rédaction et présentation de son mémoire. Sortie de service en Méditerranée. Retour de la porte de Saint-Cloud. Retour de la campagne. Luc semble debout et assuré. Jamais sans son frère. Thibaut et le métier de notaire. Romain ne part pas en vacances sans son frère. Angoisse de Thibaut, cette dernière année pour les études de Romain. Romain a de très longues vacances. Maud, Romain et les films. Café du matin. Journée épuisante. Viens voir, maman. Espagne, Île-de-France. Comme à l'hôtel numéro 1. Thibaut pense que son fils file un mauvais coton. Maud, au contraire, est d'avis qu'il a abandonné son comportement oblomovien. Thibaut insiste. Il file un mauvais coton. Maud trouve le fin mot de l'histoire, une histoire d'appartement. Luc est vraiment devenu un jeune homme actif. Maud et Delphine se saluent. Les sentiments de Luc pour Delphine sont apparemment dépourvus de romantisme et de désespoir. Le père est amusé, la mère est curieuse. Luc campe un portrait de Delphine dont il semble fier. Luc et les filles avant Delphine. Joël, la cité, les cousines, le dentiste. Irène. Mais oui, la première fois, ainsi, cela peut être sérieux. Le modèle affectif des parents. Réunion parents-professeurs. Fanny. Mais oui, c'est une petite amie. Comme à l'hôtel numéro 2. Je sors avec elle, maman. Delphine est venue vers lui. Pourvu que ça dure. Week-end des deux jeunes en Normandie. Luc apprécie les réunions de famille chez Delphine. Thibaut parle de mariage. Thibaut avait rapidement proposé le mariage à Maud. Maud avait parlé avant Thibaut de relations durables. Pourvu que ça dure, pense Thibaut. Vacances des deux jeunes en Espagne. Réaction de Romain. Affection des deux frères, bagarre et insultes. Examen de Romain fêté en l'absence de Luc. Délicatesse de Thibaut. Camille. Luc a pris la place du jumeau de Romain. Relation Maud-Camille. Ceinture et bretelles. Maud a suivi un traitement homéopathique pour lutter contre sa tristesse. Ce traitement fut en réalité un luxe de sécurité qu'elle s'offrit puisque la tristesse fut cette année justement globalement bien maîtrisée. Aventure en grande banlieue jusqu'au cabinet de M. Larmeau. La tristesse est en fait discrète Maud n'a pas eu besoin de pratiquer d'exercice en plein air pour la combattre, pas de roller notamment, comme elle en avait eu l'intention un an plus tôt de retour de Kerbihan. La discrétion de la tristesse cette année est peut-être liée aux rencontres d'écritures plus nombreuses et plus diverses. Voile au crépuscule. Les premiers jours à Kerbihan, le comportement de Luc est inhabituel, puis la famille renoue avec son rythme estival coutumier. Un soir au restaurant, Luc évoque la souffrance de sa grand-mère paternelle. Maud décide alors de l'appeler régulièrement. Un dîner à la crêperie. Les autres appels fréquents de Maud cette dernière année, notamment ceux à Rosalie. Dernier jour de vacances, Maud dit n'importe quoi. Fin.